EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons commencer une semaine assez particulière parce que nous allons parler d'un autre état d'esprit qui souvent se manifeste autour de nous. Un état d'esprit de contrôle. Il y a des gens qui sont de foi des contrôleurs, pas appointés par l'État. C'est pas leur travail. Mais c'est leur état d'esprit. Ils sont comme ça. Ils ressemblent beaucoup à un personnage biblique qui se manifeste à l'époque de Moïse, que la Bible appelle Pharaon. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit de contrôle? Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Pharaon? Ce n'est pas un démon, c'est un état d'esprit, une façon de réfléchir, une façon de faire. Un état d'esprit qui se répète autour de nous. C'est ce que nous allons découvrir et très bien étudier durant cette semaine. On va découvrir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est autour de ça, comment ça fonctionne à l'église, comment ça fonctionne dans la famille et comment s'en débarrasser complètement. Pour aujourd'hui, on va d'abord savoir qu'est-ce que c'est que ça, cet esprit de contrôle que j'aime appeler ici l'esprit des pharaons. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. À vous tous, frères et sœurs, qui êtes fidèles à ce programme sur EMCI TV, ce programme appelé Teach, je voudrais vous dire merci de continuer toujours à soutenir cette œuvre en étant partenaire d'une manière ou d'une autre, partenaire de prière. J'en ai rencontré certains qui m'ont serré la main, qui m'ont dit « N'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos encouragements. » Vos encouragements sont tout aussi importants que vos contributions financiers. Et vos témoignages sont tout aussi importants que vos contributions financières. Alors, je continue à insister et à dire merci de nous accompagner dans cette œuvre et d'être au front avec nous et que Dieu vous bénisse énormément. J'ai promis donc aujourd'hui de commencer cette série autour de l'esprit de contrôle que j'ai aussi appelé l'esprit de Pharaon. Qu'est-ce que c'est que cela? Je vais lire le texte de base. Exode chapitre 1 à partir du verset 8 à 14. Et puis tout au long de l'enseignement aujourd'hui et les autres jours, j'irai par-ci par-là dans différents autres textes pour vous montrer et vous démontrer comment cela fonctionne. Ma prière est laquelle? Ce n'est pas que vous puissiez mettre l'étiquette sur quelqu'un en disant « Ah, lui, il est pharaonique. » Non, non, non. Ne transformez pas surtout cela en une insulte. Il s'agit ici d'être capable de discerner. Le but, c'est le discernement. Élever notre esprit et être capable de reconnaître, grâce à la parole de Dieu, un état d'esprit comme celui-là autour de nous en opération. Pourquoi? Pas pour dire « lui, il en a », mais pour savoir comment aider cette personne et savoir comment limiter les dégâts d'une telle manifestation. Et même mieux, quand la personne ne veut pas se faire aider, comment détruire complètement les œuvres de cet esprit dans les milieux où l'œuvre de Dieu est censée se faire avec liberté. Exode chapitre 1, versets 8 à 14. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse car il pourrait arriver, en cas de guerre, qu'il se rejoigne à nos ennemis, qu'il combatte contre nous et qu'il sorte du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithon et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rues de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champs. Et c'est avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. » Ce texte parle d'une personne qu'on appelait ici le roi d'Égypte. Plus tard, on va commencer à utiliser le mot « pharaon ». Alors, ça doit d'ailleurs être ça le point de départ. La première chose que je m'aurais voulu dire aujourd'hui, c'est que le mot pharaon n'est pas un prénom, c'est un titre. Le mot pharaon n'est pas le prénom d'un individu dans la Bible. Le mot pharaon est un titre. Le mot pharaon n'est pas un prénom, mais un titre. Alors, lorsque vous faites l'étude archéologique ainsi qu'historique, prendre les éléments dans les textes et dans les données dans l'histoire, vous vous rendrez compte que à cette époque, on n'a pas cité le roi qui était à l'époque en Égypte, mais vous vous rendrez compte qu'on tombe souvent autour de certains noms des pharaons, entre autres Ramsès, parce qu'entre autres, il y a le mot Ramsès qui apparaît ici comme une des villes qui ont été construites à l'époque, ce qui sous-entend la présence de Ramsès II. Et on cite le nom des villes, et il y a beaucoup de données historiques ainsi que des données plus proches du texte qui tendent à croire qu'il est possible que ce soit ces rois-là. Vous verrez que dans cette même période, il y a eu deux rois. Il y a eu le roi qui connaissait Joseph, et puis il y a eu un roi qui ne connaissait pas Joseph. À l'époque, le mot pharaon, en langue égyptienne, en langue ancienne, n'était pas lié à un individu. Ça parlait de la charge et même de la place royale. Ça parlait de la cour, la royauté, la charge et la place où s'exerce l'autorité. Alors, petit à petit, ça commençait à monter, à commencer à symboliser la personne autoritaire en cet espace. Comme si on disait majesté pour la majesté du roi et majesté pour le roi lui-même. Donc au début, le mot pharaon n'était pas lié à l'individu, il était lié à la fonction, à l'endroit et au sens de l'autorité royale. Puis on a commencé à appeler cela la personne qui occupait cet endroit-là, ce palais. On a commencé à l'appeler aussi pharaon. C'est ainsi que le mot pharaon est devenu les titres honorifiques ou le titre principal des rois d'Égypte de l'époque. Donc vous connaissez certainement votre histoire, donc vous connaissez très bien l'histoire du monde, vous savez qu'on les appelait des pharaons. On a en face de nous ici un pharaon. Un pharaon qui, quand il prend le pouvoir, il se rend compte que ce fameux peuple, appelé peuple d'Israël, il n'y avait pas qu'eux, il y avait d'autres peuples. Il s'est dit, ce peuple peut devenir dangereux dans un contexte de guerre. En particulier, le peuple d'Israël qui fait que c'est multiplié. Ils ont de plus en plus d'enfants et des enfants mâles, donc des garçons, qui vont grandir et qui vont pas nécessairement regarder les choses comme ça. Et demain, ils peuvent devenir un atout entre les mains de nos adversaires et nous détruire. On peut pas continuer à vivre en si bons termes. Alors, il a pris des mesures. Il dit, montrons-nous habiles, c'est-à-dire montrons-nous rusés, trouvant un moyen stratégiquement de mieux faire ressentir notre oppression et notre domination sur eux. Or, si vous vous souvenez de l'histoire, le peuple d'Israël n'est pas en Égypte en esclave. Il est entré là-bas parce qu'il y avait Joseph, qui était un dignitaire, un haut dignitaire, en Égypte, qui était leur frère, qui les a demandé de venir pendant qu'il y avait la grande famine des 7 ans, et qu'il leur a conseillé de demander au roi de l'époque de leur donner la ville de Goshen, comme ils étaient éleveurs, et donc ils pouvaient mieux rester là-bas parce que, justement, les moutons et le reste étaient en horreur aux Égyptiens à l'époque. Ils sont entrés là-bas comme des invités du roi, des invités de la cour. On leur a donné un endroit comme un cadeau. Et le nouveau pharaon s'est dit, on ne peut plus continuer à vivre ce type de relations. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Vous étiez tout bonnement, un bon matin, vous étiez des voisins. Hein? Vous vous saluez en cours de route. Vous allez bien, vos enfants jouent ensemble. Et un bon matin, les voisins, les très chers voisins, on les transforme en esclaves, brusquement. Vous imaginez, votre mari se réveille un matin, il allait au travail, il saluait l'autre Égyptien, et pendant que tout le monde dormait, le matin, cet Égyptien qui les saluait tient un fouet. Et il le frappe lui. C'est pas des parfaits étrangers qui viennent les envahir. Je les imagine en train de se faire fouetter par « Mais Claude, qu'est-ce qui ne va pas? Tais-toi !» C'est parti. L'oppression commence. Montrons-nous habiles. Ils ont commencé à opprimer le peuple d'Israël sur ordre du roi. Ordre de Pharaon. Quand on regarde ce comportement de Pharaon, on commence à se rendre compte qu'il ne s'agit pas juste de l'individu Pharaon. Ce comportement est répétitif. On le voit dans plusieurs autres aspects dans la Bible. On voit d'autres personnes aussi réagir comme ça. Et c'est pour cette raison que je m'entends appeler ça un esprit de Pharaon. Je ne dis pas que Pharaon a pris son esprit, il a mis ça dans les gens. Je pense qu'avec le temps, vous avez compris de quoi je parle. Comment je définis l'esprit de Pharaon? Voici la définition. L'esprit de Pharaon égale un mindset de contrôle et d'exploitation nourri par la peur de perdre et l'orgueil. Un mindset, ça c'est un mot qu'on emprunte maintenant même au français, c'est de l'anglais, maintenant le français l'utilise aussi, mindset, mentalité, état d'esprit. Un état d'esprit de contrôle et d'exploitation nourri par la peur de perdre et l'orgueil. Quand une personne dans son cœur vit dans l'insécurité et la peur de perdre le contrôle, de perdre les personnes, de perdre les relations, quand quelqu'un vit dans l'insécurité intérieure, il commence à développer un état d'esprit où il a besoin de contrôler. Il veut tout contrôler, tout régir. Il veut non seulement contrôler, mais exploiter que les relations, le temps des autres. Il veut contrôler les autres et leur vie à sa guise. Parce qu'il a peur de les perdre. Parce qu'il a peur de perdre son image vis-à-vis de ces personnes-là. Parce qu'il a peur de perdre sa propre position. Et qu'il est en insécurité, il déclenche un mécanisme de contrôle. Ce qu'on appelle ici un esprit de Pharaon, ce que j'appelle ici un esprit de contrôle, je ne parle pas d'un démon, j'insiste encore, je parle ici d'un trait de caractère qu'une personne développe. Y a-t-il pas des esprits qui opèrent après et qui... Et quand je fais une description, vous n'avez pas l'impression de parler d'un esprit mauvais en même temps? Bien sûr que oui, vous verrez toujours dans l'homme quelque chose de mauvais que vous trouvez en excès, vous trouverez incarné par un démon s'il le faut, si vous faites cette étude de cette manière. Mais moi là, je ne parle pas d'un démon. Je parle justement du fait que les êtres humains, à cause de leur insécurité personnelle, développent un genre de contrôle et d'exploitation des autres. Exactement comme Pharaon. Pharaon, tu as peur de quoi? Je ne veux pas lancer ici une des théories et arriver à vous embrouiller, mais plusieurs commentateurs donnent plusieurs types d'interprétations sur ce changement brusque entre un Pharaon qui connaissait Joseph et un autre Pharaon qui ne le connaissait pas. Il y a plusieurs commentateurs qui donnent des options là-dessus. Certains donnent l'option selon laquelle qu'il est possible qu'il y ait eu détournement. En fait, il y a eu usurpation de pouvoir, il y a eu rébellion ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que les dynasties ont changé. Celui qui était au pouvoir, c'était pas la succession de son pouvoir. D'autres personnes sont venues en récupérer le pouvoir. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cassure, il y a aucune connaissance. On ne sait pas qu'il y a eu un certain Joseph. Pour eux, Joseph n'existe pas dans leurs annales, c'est une autre série des personnes qui se mettent à gérer. Et d'où, des fois, ils aiment justifier cela en montrant l'insécurité dans le nouveau pharaon, qui prouve qu'il est conscient d'une rébellion. Donc, il sait comment ils ont formaté une rébellion, et il s'est dit, tiens, soyons habiles parce que ce qu'on a fait pourrait nous arriver. Alors, il n'y a rien qui prouve ça directement dans les textes ici, ça, il faut aller dans les éléments extra-bibliques. Mais j'emprunte cela, pas pour le confirmer, juste pour vous montrer une possibilité de réflexion qui montrerait l'état d'esprit de ce pharaon qui est vraiment insécure. Il nous arrive tous de fois de sentir un peu d'insécurité, même beaucoup d'insécurité. Ça peut être le point de départ qui développe en nous un esprit de pharaon. Il y a de fois aussi autour de nous des personnes dont on dénote tout de suite cette insécurité dans leur langage, dans leur attitude, dans leur façon de faire. Et il commence à développer un comportement pharaonique. Ma prière à moi et la raison de cet enseignement, ce que nous soyons capables en tant que frères et sœurs de diagnostiquer ce mal autour de nous. De voir l'autre frère ou l'autre sœur, tu dis, non, j'ai déjà vu ça dans la Bible. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Tu ne devrais pas être comme ça. Ce n'est pas comme ça que sont les enfants de Dieu. Pharaon, esprit de Pharaon, un mindset de contrôle et d'exploitation qui est nourri par la peur de perdre, mais aussi par l'orgueil. Une vision trop élevée de soi-même. On est imbu de soi. qu'on pense qu'on est, on tient le trône, on veut être géré les autres. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte et les pharaons se prenaient pour des rois, plutôt pour des dieux. C'était des rois, des humains, mais des dieux en même temps. Ils se prenaient carrément pour des dieux. Et plus ils mouraient, plus leur place dans la divinité était reconnue. Un pharaon devait être, pour la plupart, quelqu'un d'imbu de lui-même, d'un orgueil incroyable. Quand on va regarder dans les textes, vous le voyez de temps en temps dire « Qui est l'Éternel pour que je l'obéisse ?» Waouh ! Exode 5. Il dit à Moïse, Moïse lui dit « L'Éternel dit, tu dois laisser partir son peuple. » Il dit « C'est qui cet Éternel-là ? C'est qui ?» Waouh ! Lui, le roi pharaon, le pharaon dit « C'est qui l'Éternel ?» Mais c'est contradictoire de voir une personne autant orgueilleuse en même temps insécure. Il manifeste, il donne l'impression d'être tellement imbu de lui-même et sûr de ses capacités, mais en même temps autant insécure au point de commencer à tuer des bébés. Il tue des bébés. Alors, j'aimerais vous montrer aussi quelques autres apparitions dans la Bible de ce même genre de comportement que j'appelle ici l'esprit de Pharaon ou l'esprit de contrôle. Voilà, voyons quelques apparitions de la Bible. Vous verrez ça dans le cas de Haman. Haman dans Esther, chapitre 3 jusqu'au chapitre 7. Vous voyez le cas de Haman. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que son pouvoir est blessé et tout de suite ça donne un projet d'anéantissement légal. Dans l'histoire de Moïse, je vous ai dit que vous avez affaire à deux rois. Il y a le roi qui demande qu'on les détruise, qu'on détruise justement les enfants. Et puis plus tard, vous avez un roi qui commence maintenant à demander de faire souffrir Israël. Donc il y a le roi qui a demandé l'extermination de tous les enfants mâles. Et puis il y a le roi qui a demandé de faire souffrir Israël. Et plus tard, vous allez voir après, plutôt, il y a l'autre pharaon plutôt qui vit à l'époque de Moïse, donc le pharaon qui demande l'extermination et faire souffrir sur le même. Mais plus tard, vous voyez, le pharaon qui plutôt vit à l'époque de Moïse, que Moïse va affronter dans son ministère. Mais vous voyez ce même comportement dans Haman. Haman, on est dans le livre d'Esther, Haman, parce que Mardoché se prosterne pas devant lui, il trouve qu'il est blessé dans son pouvoir, dans son autorité. Insécure qu'il est, qu'est-ce que les genoux d'un jeune homme, d'un jeune monsieur, en plein milieu de la rue, ont à voir avec toutes les autres personnes qui sont déjà prosternées? Il se trouve qu'il est blessé dans son orgueil et dit, je vais te montrer qu'il y a le pouvoir ici. Et il trouve un moyen légal. Il met sur pied un projet légal d'extermination. Pharaon a fait tuer des enfants. Haman, c'est le même esprit qui l'anime. Il veut massacrer. Et vous voyez comment il va le faire. Il va tenter de contrôler le roi pour lui faire signer un édit qui va faire massacrer tout le peuple. Deuxièmement, vous allez voir, ça apparaît aussi dans Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Dans Daniel chapitre 3, jusqu'au chapitre 4. Nebuchadnezzar arrive à un niveau de l'image de soi où on vient lui proposer de faire une statue et il accepte. Il a un degré d'absolutisme, le culte de l'image de soi. Pour lui, il commence d'abord par humilier des gens avant de pouvoir le reconnaître. On voit en lui un même type de roi, un même type de contrôle. Il dit, il veut que son image soit connue et celui qui verra cette image doit se prosterner. Ceux qui ne se prosternent pas, on les met au feu. Daniel, on l'envoie dans la fosse aux lions. Il s'y ressemble beaucoup. Quelqu'un d'autre qui le ressemble? Eh bien, c'est Hérode le Grand. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 2 à partir de verset 16. Hérode le Grand fait exactement la même chose que Pharaon. Eh bien, vous apprendrez dans la Bible que ça s'appelle une préfiguration, l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire des événements qui ont lieu dans l'Ancien Testament, pareil à l'accomplissement qui a lieu dans le Nouveau Testament ou qui aura lieu dans les prophéties que donne le Nouveau Testament. C'est-à-dire, les choses sont arrivées pour servir de modèle et qui vont être répliquées presque pareil. Ainsi, Moïse, qu'il a vécu, lui, devient une ombre de Jésus, c'est-à-dire une présence de l'apparition de l'histoire de Jésus bien avant que Jésus ne puisse vivre cela. Et autant qu'on a tué des enfants à l'époque de la naissance de Christ, autant on en a tué à l'époque de la naissance de Moïse. Et deux rois différents, un pharaon d'un côté et un Hérode de l'autre. Et Hérode le Grand a fait pareil, parce qu'il a appris qu'il y avait un certain roi des Juifs qui devait naître, il a massacré des enfants. Même chose, il veut tellement protéger sa place et il veut tellement contrôler. Vous vous souviendrez que Hérode parle aux mages et leur dit « Ah, si vous rencontrez l'enfant, venez me dire, j'irai moi aussi le rendre culte. » Oh non, c'était pas ça qu'il y avait dans le cœur. Vous pouvez voir aussi, quatrièmement, un autre Hérode, Hérode Agrippa le premier. Hérode Agrippa 1. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 3, vous verrez comment Hérode fait faire beaucoup, beaucoup de mauvaises choses, des violences énormes pour plaire à la foule. Parce que la foule la voulait, la foule a rangé, la foule le contrôlait ses émotions, l'acclamait. Et pour ça, il a fait faire tellement de violences. Un but de lui-même, se mettre à contrôler par besoin de garder son image à cause de l'insécurité intérieure qu'il avait. Je n'ai pas le temps de mieux vous parler d'Hérode Agrippa, mais vous comprendrez son insécurité. Et enfin, je vous propose par exemple l'image que l'Apocalypse utilise en disant, en appelant cela la bête. Il dit la bête. Dans le livre Apocalypse, vous verrez qu'on parle de la bête comme un système qui déshumanise, exige allégeance totale et transforme l'humain en marchandise carrément. Ça sera comme la répétition finale de l'esprit de Pharaon manifesté physiquement. Les gens sont traités comme le peuple d'Israël était traité à l'époque de Pharaon. Je ne vais pas entrer ici en des signes eschatologiques forts, mais vous voyez là dedans quelques exemples dans la Bible où des personnes, des dirigeants se comportent presque pareil que Pharaon, avec un même esprit de contrôle. La quatrième chose que j'aimerais dire aujourd'hui, puisque nous faisons que entamer ce sujet, et je vous assure, ça va être très, très intéressant. J'aimerais déjà d'emblée vous le dire. Là où il y a l'esprit de contrôle, même si un être humain manifeste des défauts et des faiblesses, mais je peux vous assurer avec ma petite expérience, et je vous assure que je ne suis pas Dieu, je suis qu'un homme qui n'a vécu qu'une petite partie de sa vie, mais ma petite expérience des quelques jours me montre que très souvent, là où se trouve un esprit de contrôle, autour, je ne parle pas de l'individu nécessairement, je parle de la situation. Vous finirez par découvrir qu'autour, il y a aussi des esprits mauvais qui agissent. Il y a souvent la sorcellerie dedans. Vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent le diable qui fraye un chemin parce que cet esprit de contrôle, il aime ça. Et ça lui ouvre une grande porte. Et je me rappelle que pendant cette semaine, que quelqu'un qui était sous le contrôle de qui que ce soit, en sorte définitivement. J'aimerais que pendant cette semaine, qui que ce soit qui va reconnaître en lui cet état d'esprit de contrôle se dise, non, je ne veux pas être un instrument de destruction, ni dans ma famille, ni dans l'église, ni au milieu des amis, je refuse que l'ennemi passe par moi pour détruire l'œuvre de Dieu. Je refuse que l'ennemi passe par moi pour détruire la vie des autres. Je refuse de tenir la vie des autres aux commandes. Vous savez, c'est pas facile de dire non au pouvoir. Et quelqu'un qui aime cet esprit de contrôle, quand il se rend compte qu'il peut te faire ce qu'il veut, quand il le veut, c'est pas facile qu'il abandonne ça. Parce qu'il sait qu'il suffit qu'il se victimise un peu. Et puis, il te voit courir. Il donne l'impression de pleurer et il te voit courir dans tous les sens. Et quand tu pars, il tourne le regard. Il se met même à rire. Mais quand tu arrives, il reprend ses attitudes. Seigneur, délivre ton église. Délivre tes enfants, tes serviteurs. Délivre-leur de cette oppression, de cette forme de contrôle exercée par des personnes mal intentionnées ou même par des personnes peu consciente de ce pouvoir ou de cet art qu'elles ont avec elles. Délivre. Mais délivre encore plus ceux qui agissent de cette manière sans nécessairement savoir à quel point c'est dangereux. Ceux qui ont pris habitude d'être comme ça et qui pensent que ça fait partie maintenant de leur personnalité et qui ne se rendent pas compte que le Saint-Esprit met son doigt là-dessus et réclame changement. Quatrième et dernière chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que l'insécurité crée souvent un contrôle manipulateur. Je suis en train de parler d'un esprit de contrôle que je donne le nom de l'esprit de Pharaon ici. Mais je veux que vous puissiez savoir que l'une des sources principales de cet esprit de contrôle, ça peut venir de plusieurs autres choses, mais l'une des sources principales qui jaillit tout droit vers le contrôle manipulateur, c'est l'insécurité de celui qui devient manipulateur. Derrière un manipulateur, il y a souvent de l'insécurité. L'insécurité qui dit, si je ne fais rien, je vais souffrir. On va m'abandonner. On va me tromper. On va me manquer de respect. Si je ne fais rien, je vais souffrir. Il faut que je fasse quelque chose. Si je ne fais rien, je sortirai d'ici, m'embredouille. Je n'aurai rien. Il faut que je fasse quelque chose. Et par ce soi-disant quelque chose, un échafaud d'un plan de manipulation des personnes en qui, avec qui il est en relation. Si la personne s'est dit, si je fais rien, je vais souffrir, je risque de souffrir, je ne vais pas souffrir. On va m'abandonner, si je fais rien, on va m'abandonner dans cette relation. Ce mari va plus continuer à rester avec moi, il va m'abandonner. Si je fais rien, on va me tromper. Il faut que je fasse quelque chose, je dois quand même mettre des choses, sinon, moi je n'ai pas confiance aux hommes, il finira par me tromper. Si je ne fais rien, mais le rien là, qu'il ne veut pas faire, les choses qu'il va se mettre à faire par peur d'être trompé. Résultat, manipulation. Si je fais rien, on va me manquer de respect. Mais le soi-disant faire quelque chose là, pour qu'on le respecte, ça devient de l'exploitation et de l'oppression et de la manipulation sur les autres parce qu'il a peur que son image ne soit pas respectée comme il l'aurait voulu. Cet esprit se dit à l'intérieur, si les autres font ce que je veux, je serai moins en danger. C'est-à-dire, si ce que je veux, ils le font, alors là, au moins, je suis rassuré. Je ne serai pas rassuré si ils ont une volonté personnelle si libre. Si je ne peux pas prédire leur mouvement, je ne suis pas en danger. Alors, pour prédire leur mouvement, je dois dicter leur mouvement. C'est ça, un esprit de contrôle. Il laisse pas les choses comme ça. Vous allez découvrir ça pendant la semaine, mes amis. C'est partout. C'est à l'église, c'est au travail, c'est parmi les amis, c'est à la maison. Il faudrait résister cela. Oh, il faudrait. J'aime Jésus. Jésus n'était pas complaisant du tout. Même quand il voyait quelque chose dans Pierre, son bien-aimé, il disait, arrière de moi, Satan. Je prie Dieu que vous ne soyez pas complaisant. Et que pendant cette semaine, vous ne puissiez pas tolérer une chose qui vous fait subir du contrôle, la pression. Quand vous subissez le contrôle, la pression, vous déprimez. Il est possible d'arrêter de vivre cette vie de dépression. Cette semaine, ça va être un discernement fort et ça va être intense. Ça va être rempli de victoires. Donc, préparez déjà vos carnets parce que cette semaine, on va bouter dehors cet esprit de contrôle, que ce soit en nous, que ce soit autour de nous, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit parmi nous, on va s'en débarrasser définitivement. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.